Ma première idée, quand j'avais été invité à participer à un colloque à Metz sur le concordat, la séparation et la laïcité, était celle de focaliser ma présentation sur une brève description, en perspective comparative, de l'histoire de la laïcité et du laïcisme en Italie, à partir des racines pour la plupart laïques du mouvement pour l'unification italienne et ses différents courants, du développement difficile mais constant vers la consolidation des idées de séparation et de laïcité presque jusqu'à la Grande Guerre, en opposition avec l'Église catholique, mais avec le soutien pour la plupart des minorités religieuses, puis le virage radical vers la soi-disant réconciliation avec l'Église catholique par le régime fasciste et l'instauration du concordat qui, bien qu'avec quelques frictions, fit que l'Église catholique en pilier du régime. La confirmation du concordat après la guerre par l'Assemblée constituante suite à un vote conjoint des démocrates chrétiens et du Parti communiste contre l'opposition des socialistes, des républicains et de la plupart des libéraux. La longue lutte pour une interprétation de plus en plus souple du sens de la mention du concordat dans la Constitution et de son rang dans la hiérarchie des normes. Une lutte qui avait abouti à sa conclusion provisoire après de nombreuses décisions de la Cour constitutionnelle et après les deux référendums que nous avions remportés sur la loi du divorce et sur l'avortement. Alors que dans les années 80 et même 70, la Cour constitutionnelle parvint à la conclusion que la Constitution italienne dans son ensemble avait établi une règle générale de laïcité comme, je cite, « principe suprême », plus encore que fondamental, de sorte qu'il ne pourrait même pas être modifié par une révision de la Constitution. Le résultat d'une telle modification serait, a dit la Cour, une substitution plutôt qu'une modification de la Constitution elle-même, au même titre que la modification d'autres principes suprêmes comme la démocratie, la forme républicaine de l'État ou les droits de l'homme. Et même, par la suite, le renouvellement du concordat par le premier ministre socialiste Bettino Craxi, qui signa avec le Saint-Siège une sorte de concordat cadre, très souple et donc insidieux, et donc la stratégie très astucieuse et, il faut dire, réussie des évêques italiens, après la chute du système politique précédent au début des années 90, pour mettre aux enchères un vote catholique aujourd'hui à peine existant en Italie, en mettant en concurrence pour leur profit les partis de centre-gauche et la droite populiste. Pour terminer avec la nouvelle lutte épuisante contre les moyens camouflés mis en place pour soutenir une puissance ecclésiale déclinante dans la société, à travers de nouvelles excuses pour injecter de l'argent public, octroyer de nouveaux privilèges et freiner la reconnaissance de nouvelles libertés liées à la sécularisation de la société. Je suis évidemment à votre disposition pour discuter de tout ça, mais il me semble que plutôt que présenter un résumé de l'histoire de la laïcité en Italie que tout le monde pourrait facilement trouver ailleurs, il serait peut-être plus intéressant de saisir l'occasion d'un colloque dans la seule région concordataire de la France pour discourir avec vous des similitudes beaucoup plus profondes, à mon avis, et des différences, surtout d'encadrement idéologique, selon moi, entre les approches laïcistes les plus répandues en Italie et en France sur l'ensemble de la question. Ce qui frappe le plus un Européen non français qui écoute les débats politiques ou culturels français, c'est généralement l'accent qui est souvent mis par les personnalités politiques et les intellectuels français sur le prétendu caractère français des controversées dans lesquelles ils sont engagés. Le plus souvent, c'est que ce qu'ils considèrent comme un débat typiquement franco-français est assez semblable à ce qui est discuté plus ou moins dans les mêmes termes dans la plupart des pays de l'Europe occidentale. Je pense que ceci s'applique aussi au débat sur la laïcité. Je ne vais pas nier qu'il y ait des caractères de l'idée française de laïcité qui sont assez spécifiques. Et il est également vrai que parfois ces particularités rendent assez difficile la traduction de ces débats dans des langages politico-culturels d'autres pays. Mais je crois que cela a plus à voir avec l'encadrement idéologique ou culturel dans lequel ces débats se déroulent, plutôt qu'avec le contenu réel ou la substance des valeurs éthico-politiques impliquées. Ce qui est probablement très particulier au débat français sur la laïcité, c'est que son développement historique est beaucoup plus qu'ailleurs lié au problème de la souveraineté de la nation au-dessus de toute autre appartenance ou allégeance, et donc à une sorte de révérence particulière pour les institutions nationales et pour l'espace public de la nation républicaine. La laïcité est partout où ce concept est utilisé, et peut-être même au-delà dans les pays et les aires linguistiques où le jargon politique est différent, un outil pour organiser le vivre ensemble et protéger la liberté individuelle, la liberté de la majorité désormais presque partout sécularisée, la liberté des minorités religieuses et la liberté des minorités au sein des minorités. Elle exige toujours la neutralité religieuse absolue des institutions publiques, le refus de tout privilège pour les institutions religieuses et la garantie de l'égalité de droit et de l'égalité de dignité sociale pour tous, indépendamment de leurs convictions. Pour des raisons historiques, la laïcité est considérée en France comme une composante de l'identité collective, voire de l'identité de la nation française, alors que dans d'autres pays, et même dans les pays où elle est considérée comme un principe constitutionnel fondateur, ou au moins un principe, une caractéristique évidemment nécessaire de la société plurielle contemporaine, seule une partie du public la considère comme l'une des caractéristiques principales de leur identité éthico-politique. Dans une certaine mesure, il me semble, la laïcité française n'implique pas seulement la séparation et la neutralité, mais aussi une certaine prédominance de l'État-nation, même dans certaines affaires religieuses. Une attitude qui remonte peut-être à la tradition du gallicanisme bien avant la Révolution française. Même si la tentation d'imposer une stricte réglementation d'État aux associations religieuses qui l'emporteraient sur le droit canonique fut rejetée lorsque la loi de séparation fut introduite en 1905, des traces de cette tradition sont bien visibles dans l'histoire et ou dans la contemporanéité. Il s'agit tout d'abord du ton général du débat, mais aussi, par exemple, de dispositions plus concrètes, comme, par exemple, l'interdiction de prêcher en langue bretonne, introduite en 1902, au nom soit de la laïcité, soit de l'uniformité linguistique de la nation, ou l'interdiction de célébrer des mariages religieux avant la cérémonie civile. Cette dernière peut bien avoir de très bonnes raisons, mais c'est en tout cas une violation du principe de séparation. Au XIXe siècle, le bâtisseur de l'État italien soutenait la séparation de l'État et de la religion comme une condition décisive de la modernisation politique et économique de l'Italie, et comme un outil pour surmonter le retard de la société italienne, vu aussi et surtout comme la conséquence de la victoire de la contre-réforme. L'histoire des républiques italiennes au Moyen-Âge de l'historien suisse protestant Sismondi est probablement une très grande influence à cet égard. Mais la laïcité italienne avait été marquée par le Risorgimento italien et sa tradition libérale et radicale, moins étatique que la tradition politique française, et donc peut-être plus encore que la française, axée sur la protection de la liberté, soit positive, soit négative quant à la religion, traditionnellement opposée depuis des siècles par l'Église catholique, plutôt que sur la compétition entre Église et État pour l'hégémonie culturelle, compétition qui a tout de même bien existé en Italie aussi. Cela dit, je crois qu'on puisse dire que l'idée française et italienne de la laïcité coïncide très largement, bien que la première soit considérée par la majorité des Français comme une partie intégrante de l'identité nationale, et la seconde soit considérée comme une priorité politique brûlante par une partie seulement de la population italienne. Les libéraux italiens ont et aussi dû parfois user de beaucoup de rigueur dans leur lutte contre le cléricalisme au XIXe siècle, et les deux traditions politiques laïques, la française et l'italienne, ont contribué dans la même direction à l'affirmation de la sécularisation de la société et des libertés individuelles et à l'émancipation des minorités religieuses. Toutes les deux prenaient leurs racines dans le patrimoine culturel des Lumières et soutenaient la diffusion des connaissances scientifiques comme moyen de contrebalancer l'influence catholique. Il ne faut pas sous-estimer, d'ailleurs, que les libéraux et les républicains italiens du XIXe siècle étaient autant tributaires de la philosophie politique française et suisse que britannique et plus tard américaine. Et ces dernières avaient des expériences beaucoup plus variées avec l'attitude des différentes dénominations religieuses, pas toutes aussi négatives comme celles rencontrées où l'Église catholique était dominante et puissante comme chez nous en France et en Italie. Et dans l'histoire contemporaine italienne comme française, la plupart des protestants, chez nous les Vaudois qui sont aujourd'hui encore l'Église la plus laïque de la chrétienté, la plupart des juifs et des catholiques dissidents étaient généralement parmi les défenseurs plutôt que les oppositeurs de la séparation. Toutefois, même si les différences ne doivent pas être surestimées, elles impliquent des interprétations légèrement différentes de ce que devrait signifier la neutralité religieuse des institutions publiques. Un exemple typique de cette approche différente et de longue durée, pas longue durée dans le sens brodelien, naturellement on parle ici des trois derniers siècles plus ou moins, a pu être observée lorsque la fête juive du Yom Kippour a coïncidé avec des élections générales. Cette simultanéité d'événements s'était produite en deux différentes occasions en France et en Italie. Les juifs orthodoxes strictement pratiquants croient qu'ils ne sont pas autorisés par leur religion à voter avant le coucher du soleil au Yom Kippour. En France, on a dit que c'était leur affaire. La séparation de l'État et de la religion obligeait l'État à ne pas prendre en compte un problème privé de conscience d'une petite minorité d'individus. En Italie, l'initiative même de solliciter une modification de la loi électorale qui aurait prolongé l'horaire des votes de quelques heures cette année afin de permettre à la minuscule minorité de juifs italiens orthodoxes et strictement pratiquants de voter après le coucher du soleil avait été prise par les intellectuels et les personnalités politiques les plus laïques d'Italie, bien qu'elle était adoptée ensuite par le Parlement à l'unanimité. Un autre exemple, vraiment typique, de l'incompréhension que suscite parfois l'encadrement culturel de l'idée française de la laïcité, c'est celui de la question dite du voile islamique. Dans un État laïque, la neutralité devrait être exigée des institutions publiques et des individus qui agissent en leur nom. En théorie, dans l'interprétation française de la laïcité, elle est parfois également exigée des particuliers qui entrent dans la sphère publique. Mais si on écoute les auditions de la commission Stasi, le vrai point n'était pas là. J'avoue qu'en écoutant ces auditions transmises à l'époque par la chaîne publique Sénat, j'ai moi-même entièrement changé ma position initiale. Au début, j'étais contraire à toute interdiction au nom de la liberté individuelle. Mais au cours des auditions, le vrai point ne me semblait plus être la défense de la sphère publique sacrée de la République, et même pas la question des signes religieux, mais la protection du libre développement des personnalités individuelles des mineurs face à une imposition religieuse, familière et ou communautaire très répandue et inimaginable auparavant, qui semblait avoir été établie dans des vastes zones du territoire français. Le choix, en tout cas tragique, du législateur français était entre interdire l'usage du voile même aux écolières qui voulaient vraiment le porter, ou bien accepter son imposition sur celles qui étaient victimes d'une violence silencieuse qui était très difficile à détecter dans la plupart des cas, sauf dans des situations extrêmes et seulement en cas de résistance obstinée et presque héroïque de la part de la jeune fille. En tout cas, il me semblait, une telle imposition à partir de l'âge de la puberté se traduirait inévitablement en un conditionnement à vie, car tout le monde comprend qu'au fil des années, un vêtement qui doit être constamment porté en public peut être senti comme une seconde peau. Je comprends toutes les objections possibles et même très raisonnables. Je comprends les enjeux politiques, les implications, les instrumentalisations possibles et même inévitables, notamment par les xénophobes et les racistes. Mais en tout cas, la véritable justification, la raison d'être de la prohibition du voile à l'école s'est révélée aux yeux des autres Européens. Le respect du libre développement de la personnalité des mineurs et non pas, comme le disaient officiellement les autorités et la politique française, la simple et selon moi inacceptable protection de la neutralité presque sacralisée de la sphère publique. Mais comme vous le voyez, les conclusions auxquelles je serais parvenu à travers une autre voie sont plus ou moins les mêmes. Ce sont seulement des pistes de réflexion dans la recherche d'un vocabulaire commun et partagé dont nous avons d'autant plus besoin que nos adversaires sont toujours mieux coordonnés et mieux organisés que nous. Je vous remercie encore de votre invitation et de votre attention. Merci.